Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man,
une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 8 septembre 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons du monde du travail aux États-Unis. Lundi dernier, comme chaque premier lundi du mois de septembre, les Américains ont célébré le Labor Day, la fête du travail. À cette occasion, le président Joe Biden s'est exprimé lors d'un rassemblement syndical à Philadelphie. Il a félicité les travailleurs américains pour leur rôle dans la construction de l'économie, évoquant la façon dont le pays, se remet de la pandémie de COVID-19 et de ce que son administration a fait pour financer l'amélioration des infrastructures. Le discours de M. Biden survenait après l'annonce la semaine précédente de la création de 187 000 emplois en août, une preuve d'un marché du travail au ralenti mais toujours résilient malgré les taux d'intérêt élevés imposés par la Réserve fédérale. De tout cela, nous en parlons avec nos invités, le professeur Jean-François Seznec, il est économiste, directeur de Lafayette Group, Hildegarde Yogo, gestionnaire des ressources humaines en service à l'International Rescue Committee à New York, et nous espérons avoir Laurent Boujambi, expert financier et entrepreneur. Nous le retrouvons dans quelques instants. Nous retrouvons donc notre premier invité, le professeur Jean-François Seznec. Il est économiste et directeur de Lafayette Group. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, bonsoir.
Merci de nous rejoindre dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons du travail aux États-Unis. La fête du travail est survenue quelques jours seulement après la publication des chiffres sur l'emploi. Commençons, professeur, par parler de ce qui peut être une curiosité pour nos auditeurs. Dans la plupart des pays, la fête du travail est célébrée le 1er mai, mais ici aux États-Unis, c'est le premier lundi du mois de septembre. Comment expliquer cela, professeur?
Écoutez, c'est une vieille histoire qui remonte à très longtemps, à l'établissement de la fête du travail aux États-Unis il y a plus de 50 ans, 60, plus que ça même, et qui en fait, ils ont choisi cette date de la fin de l'été pour ne pas être une date socialiste, si vous voulez. Il fallait faire la fête du travail, oui, mais pas une fête socialiste qui aurait été à l'époque surtout très anti-américaine. Donc, il faut donc souhaiter la meilleure des choses aux travailleurs, mais pas promouvoir le côté socialiste de la chose.
Alors, professeur, la fête du travail, le Labor Day, le marché du travail, je voulais dire, a été affecté par la pandémie de COVID-19, mais on assiste progressivement à une relance dans le marché de l'emploi. C'est donc une aubaine pour ceux qui cherchent de l'emploi en ce moment. Comment analysez-vous le marché en ce moment de la vie des États-Unis?
Mais écoutez, le marché est très 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 fort. Le taux en ce moment d'emploi est de 3,8% et le taux où il n'y a pas de travail et c'est un chiffre très bas. Et en fait, c'est un chiffre qui est en fait encore plus bas que ça parce que dans certaines régions des États-Unis, le taux est assez aussi bas que par exemple dans le Maryland où j'habite, à côté de Washington. Le taux est inférieur à 1,8%. Donc, il n'y a pas du tout de sous-emploi en ce moment. Et c'est à la fois une très bonne chose et une chose qui aussi crée de l'inflation, bien sûr, mais c'est une très bonne chose. Le marché du travail américain en ce moment est absolument superbe.
Alors, retrouvons Hildegarde Yogo. Elle est gestionnaire des ressources humaines en service à l'International Rescue Committee à New York. Salut Hildegarde, bienvenue.
Merci, merci pour l'invitation.
Voilà, vous avez suivi le professeur Seznek, il a commencé à analyser le marché du travail qui se remet progressivement des effets de la pandémie de COVID-19. Vous, comment est-ce que vous voyez le marché du travail en ce moment?
Oh non, mais c'est une bonne opportunité pour tout le monde, surtout pour les employeurs, mais aussi les employés. Comme j'aime souvent dire en anglais, it's a win-win relationship. Donc, les sociétés ont besoin des talents pour rester compétitifs. Et c'est pareil pour les employés qui ont besoin d'avoir une carrière, avoir du boulot et tout ça. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour tout le monde.
Alors, Hildegard, il se trouve quand même que pendant que certains employeurs cherchent des employés, ils ne trouvent pas des personnes pour occuper des postes. D'autres employés cherchent du travail, des chômeurs qui cherchent du travail et ne les trouvent pas. Comment expliquer ce paradoxe?
Je ne sais pas si on doit parler de paradoxe. Je pense que le problème, c'est que dans la société, on n'a pas encore compris que, comme je disais tantôt, c'est une relation gagnante. Donc, les sociétés ont besoin des gens qui ont des compétences dont ils ont besoin pour rester compétitifs. Donc, c'est pour ça que, et c'est pour ça que dans le jargon des ressources humaines, on prend assez de temps pour définir exactement quel type de compétences on recherche là-dedans. Donc, je pense que c'est une équation entre la relation entre ce que l'employeur veut et ce que l'employé recherche. Donc, il est important, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver l'emploi, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'apporte sur la table? Est-ce que cette organisation, cette société ou ce boulot est une bonne, ce qu'on dirait en anglais, good fit for me? Donc, c'est pour ça que ça semble être un paradoxe qui, pour moi, n'en est pas un. Donc, c'est difficile. Et ça part de cette relation, et je tenais à insister dessus. C'est pas nécessairement un paradoxe.
Professeur Seznek, en sortant progressivement de la pandémie de COVID-19, où beaucoup d'entreprises ont dû fermer porte, je pense par exemple aux restaurants, bars, le service, les métiers du tourisme et tout cela, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. On est en train de repartir. Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs emplois qui se créent, mais des gens cherchent du travail, ils ne les trouvent pas. Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus dû à un problème de profil que les employeurs ne trouvent pas? Comment analysez-vous cette situation?
Mais écoutez, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il le garde de présenter ça extrêmement bien. Mais je pense qu'un des problèmes dont on ne parle pas assez, même aux États-Unis, est le fait que depuis 50 ans, il y a eu quand même une certaine désindustrialisation de l'Amérique au profit de la Chine. Beaucoup de compétences sont parties en Chine et les gens, avec les problèmes entre les États-Unis et la Chine, maintenant, l'industrie commence à reprendre de la vigueur aux États-Unis, mais il n'y a pas les compétences nécessaires parce qu'elles ont disparu. Et donc, ça crée des problèmes parce que beaucoup de compagnies aimeraient réindustrialiser, si vous voulez, mais ne trouvent pas les gens nécessaires. Donc, ça, c'est un des problèmes. Dans les services, effectivement, il y a énormément de demandes en ce moment, et les gens peuvent trouver du travail, mais il faut aussi que les employeurs payent. Et il y a en ce moment beaucoup de compagnies qui offrent de plus en plus d'argent à leurs employés. C'est toujours des salaires relativement bas d'ailleurs, mais qui augmentent en ce moment assez rapidement.
Oui, Hildegard, vous êtes spécialiste des ressources humaines. Si vous avez des Américains ou même des immigrés qui cherchent du travail en ce moment, que leur conseilleriez-vous? Quels sont les secteurs dans lesquels il faut chercher? Quelles sont les formations qu'il faut faire en ce moment où l'économie semble repartir?
En ce moment, les gens se forment beaucoup en informatique. Le secteur de la santé reste toujours aussi un bon secteur. Mais je ne voudrais pas limiter ça seulement à ces deux catégories ou bien à d'autres secteurs. Je pense aussi investir en la formation tout court. Donc, il est important de se former et pour pouvoir être prêt pour les sociétés. Parce qu'il faut avoir les compétences. C'est vrai que les salaires ne sont pas ce qu'il faut, mais du moment où vous pouvez venir montrer aux employeurs que vous avez la compétence, vous avez la matière grise, pour deliver, comme on dit en anglais, vous êtes sûr que vous aurez un bon boulot. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment investir dans la formation. Et je crois que c'est l'une des choses que l'administration Biden s'attelle à faire, vraiment donner des subventions pour qu'il y ait des formations là-dehors. Ça sera très facile, ça sera bien pour tout le monde.
Oui, alors professeur Sexnek, vous avez commencé à évoquer les problèmes de salaire qui sont très bas. Il faut dire que l'inflation n'a pas arrangé les choses, hein, l'inflation qui reste élevée et qui réduit donc le pouvoir d'achat des Américains. Comment est-ce que vous voyez l'administration Biden adresser ce problème et que peuvent faire les autorités, que peut faire Washington pour soulager les travailleurs?
Aux États-Unis, qui est quand même un pays de plus de 360 millions d'habitants, il n'y a pas vraiment de politique centrale. C'est-à-dire que le tarif du travail n'est pas national. C'est basé sur chaque État à des règles différentes, chaque marché a des règles différentes. Et vous avez des États où le salaire minimum est entre 5 et 7 dollars et d'autres où le salaire minimum est entre 15 et 17 dollars et pour le même travail, en fait. Donc, c'est assez difficile de faire une présentation, si vous voulez, sur comment la politique nationale doit être définie. Parce que, fondamentalement, le salaire est basé sur la demande et l'offre du travail. Donc les régions comme le Maryland ici, où il n'y a vraiment pas beaucoup d'emplois, mais il y a beaucoup de demandes, les tarifs montent très rapidement et pour les employeurs. Donc c'est assez délicat et c'est très difficile pour le gouvernement fédéral de pousser ça parce que, comme je vous le dis, chaque État a des lois différentes et la base fédérale qui est à 7,50 $ ou quelque chose comme ça maintenant à l'heure, en fait ne s'applique que très très peu et s'applique seulement vraiment qu'aux travailleurs fédéraux et c'est donc une minorité.
Une minorité donc. Il y a des millions de travailleurs qui évoluent dans le secteur privé et où M. Sexnek pense que l'administration fédérale n'a pas forcément les moyens d'influer sur les salaires. Hildegarde, alors, il y a des États, comme le disait le professeur Sexnek, où les gens gagnent parfois 7 dollars de l'heure. Comment est-ce qu'il faut adresser ce problème de minimum wage et de salaire minimum pour ces personnes qui gagnent parfois de quoi à peine payer une chambre, un appartement?
Oui, c'est assez bas. C'est assez bas. Et moi, je me dis, le gouvernement fédéral ou bien des gouvernements au point de vue étatique devraient subventionner des entreprises. Mmh. Et ça va pouvoir faire en sorte qu'il y ait un boost sur les salaires. Par exemple, l'année passée, vous allez remarquer que l'augmentation salariale qui est faite dans beaucoup d'entreprises en fin d'année était beaucoup plus élevée que les années précédentes dû à l'inflation. Donc si les entreprises sont subventionnées, ils peuvent créer des facilités pour ces catégories de personnes, d'abord par l'augmentation salariale, mais aussi investir dans la formation, comme je disais, c'est très important. Investir dans la formation, s'assurer que ces entreprises ont les moyens, les capacités financières pour pouvoir assurer quelques petits avantages comme l'assurance maladie. Par exemple, s'ils sont subventionnés, ils peuvent négocier des prix beaucoup plus moins élevés pour les contributions mensuelles. Donc tout cela peut aider ces catégories d'employés. Peut-être pour la prochaine fois, on devra aussi penser à la classe moyenne parce que elle aussi souffre parce que vous avez tout qui monte cher, qui est cher, vous avez le logement qui est en problème, vous avez le childcare, la crèche pour les enfants qui n'est malheureusement pas subventionnée ici aux États-Unis. Donc tout ça, ça demande vraiment une implication des autorités et comme je disais, la formation, la subvention pour les entreprises.
Voilà. Merci Hildegarde. Vous restez avec nous. On va retrouver Laurent Boujambi qui nous a finalement rejoint. Il est expert financier. Il est entrepreneur. Salut Laurent.
Oui, salut Mamadou, comment vous allez?
Très bien, merci. Nous sommes très ravis de vous avoir enfin. Alors, on parlait déjà avec les autres invités. On a commencé à analyser le marché du travail avec la reprise qui est timide pour le moment dans le marché du travail et les salaires qui restent faibles, grignotés aussi par l'inflation. Alors, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes expert financier, quelle analyse vous faites du marché du travail en ce moment aux États-Unis?
Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je trouve que le marché du travail aux États-Unis, c'est complexe. Hein? Je ne sais pas comment comparer parce que c'est vraiment inédit. On n'a jamais vu ça avant, les gens qui étudient l'histoire du travail aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'emploi, mais il y a aussi beaucoup d'employeurs qui cherchent des employés, mais qui ne trouvent pas. Personnellement, je suis entrepreneur, j'ai une petite entreprise que je gère qui est à peu près 45 employés. Et parfois, c'est vraiment difficile de trouver des employés parce que, en fait, durant le COVID, c'était plus que difficile parce qu'il y avait le COVID, les gens voulaient rester à la maison avec leurs enfants qui n'allaient pas à l'école. Mais après le COVID, ça reste toujours la même chose. Je crois que cela est dû au fait que les gens, il y a eu beaucoup d'émigration entre les différents États et parfois les gens aussi ont pris le temps de penser sur leur carrière et certaines personnes ont choisi de rentrer à l'école ou bien changer de carrière. Alors pour le moment, parlons de ma propre exemple, je crois que pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup plus de l'emploi dans certains domaines, mais il y a moins d'emplois dans d'autres domaines. C'est complexe, si je pouvais le dire ainsi.
Alors, on retrouve le professeur Seznek. Professeur Hildegarde à New York nous disait que on peut aider les gens à se former. On peut aussi subventionner les entreprises pour encourager la création d'emplois, réduire le chômage. Est-ce que, selon vous, il y a d'autres mesures qui pourraient aider le monde des entreprises à créer, à inciter ces entreprises à créer plus d'emplois, à attirer davantage de personnes qualifiées et peut-être moins qualifiées?
Écoutez, je pense que Hildegarde avait commencé à en parler et je pense que c'est un facteur très important, c'est le coût des assurances de la santé. S'il pouvait y avoir une politique nationale, si vous voulez, sur la santé, où les assurances pourraient être beaucoup moins chères qu'elles ne sont maintenant parce qu'elles s'appliqueraient à tout le monde et non pas seulement à quelques personnes, je pense qu'effectivement ça aiderait énormément les entreprises, ça leur diminuerait leurs coûts et ça leur permettrait d'embaucher beaucoup plus facilement des employés qui pourraient travailler plus facilement. Je pense que c'est un facteur très important, le coût de la santé. Mais bien sûr, il y a d'autres choses qui pourraient se faire, comme le training hein, des gens dans tout un tas de domaines, le développement des écoles techniques pour donner plus de compétences aux jeunes. Et ce genre de choses peut être fait plutôt nationalement que localement, alors qu'à l'actuel, bien sûr, la politique, donc, comme on disait tout à l'heure, est très locale.
Alors, Hildegarde, vous parlez évidemment de formation. C'est un domaine que vous connaissez très bien. Mais on sait que la formation coûte très cher aux États-Unis. Et on va demander aux jeunes de se former. Mais en même temps, il faut prendre des dettes colossales parfois. Ou alors, pour ceux qui viennent des milieux parfois défavorisés, il n'y a même pas moyen de contracter ces dettes-là pour se former. Comment favoriser la formation des Américains et des personnes vivant aux États-Unis en ce moment où l'emploi, la politique de l'emploi reste très volatile?
C'est une très bonne question. Quand je parlais de formation, je voyais beaucoup plus ces formations professionnalisantes. Et je reviens encore à l'idée que si l'État, si le gouvernement fédéral, je sais qu'ils ne peuvent pas tout faire, peuvent subventionner ces petites formations. Et déjà, même en entreprise, il y a ces formations qui permettent à ce que les gens aient exactement les compétences dont on a besoin. Donc, ces petites formations, et même au niveau local, je me souviens en Virginie, il y avait des trucs organisés par le county, je ne sais pas comment ça se dit en français. Il y avait ces formations de 6 mois ou d'un an qui permettait à s'assurer que les gens ont des compétences. Et c'était vraiment prix minimal. On n'avait pas besoin d'aller prendre d'une dette ou un crédit pour ça. C'est vraiment à la portée. C'était des trucs qui étaient subventionnés même au niveau local. Donc, si on peut avoir plus de ces formations, même dans les bibliothèques ici aux États-Unis, ça existe pour que les gens puissent se former, pour qu'ils soient prêts pour le travail.
Alors, Laurent, on va aborder un peu l'aspect politique de l'affaire. On sait qu'il y a une élection présidentielle qui arrive l'année prochaine. Le président Joe Biden, comment est-ce que vous voyez sa politique en matière de lutte contre le chômage? Est-ce que vous pensez que ce sera un atout dans la campagne ou vous pensez que ce sera une faiblesse que vont exploiter les républicains?
Personnellement, je crois que le président Biden a fait un excellent travail dans le domaine du travail. Il a ajouté beaucoup de travail aux États-Unis lorsqu'il a pris le pouvoir. Mais aujourd'hui, nous voyons le déclin de ces jobs qu'il est en train de créer. Je crois que le mois passé, on a parlé d'une centaine de milliers d'emplois. Alors, j'espère que s'il continue comme il a commencé, je crois qu'il pourrait utiliser ça comme un atout et il pourrait se vanter comme un champion, comme lui-même le dit toujours, il est le champion de la classe moyenne. Hein. Donc, il pourrait vraiment utiliser ça parce qu'il a fait un bon travail, parce que juste après la pandémie COVID, il y avait trop de chômage, mais il a quand même pu relever l'économie et ajouter beaucoup d'emplois. Personnellement, je crois que ça sera toujours un débat. C'est toujours un débat dans la politique américaine. Mais je trouve que le président Biden a fait un bon travail dans ce domaine-là, personnellement.
On va prendre l'avis du professeur Seznek. Professeur, comment vous voyez la politique de l'emploi menée par le président Biden?
Je trouve que comme disait mon prédécesseur, il a fait un très bon travail. Le fait qu'il y ait presque pas de sous-emploi en ce moment est un très bon signe. Et je pense que même si c'est pas entièrement dû au président Biden, si c'est un peu les conséquences de l'économie telle qu'elle est, la réindustrialisation du pays, je pense qu'effectivement, ça va être un gros avantage pour lui dans la campagne. Il est aussi très proche des syndicats.
Les syndicats, oui.
Et à cause de ça, ça va lui faire un gros avantage, parce que le Parti démocrate a perdu beaucoup de militants, si vous voulez, de personnes qui votent pour eux, qui viennent de la classe moyenne et qui étaient dans le temps très proches des syndicats. Maintenant, le président se remet très proche des syndicats et va essayer de récupérer cette classe moyenne qui a un peu disparu.
Alors, Hildegarde, ce sera certainement votre dernier mot. Alors, comment est-ce que vous voyez le marché de l'emploi dans les prochains mois ou les prochaines années? Quels sont les secteurs dans lesquels il faut s'investir pour gagner plus d'argent, pour trouver du travail? Quelle est votre vue sur le marché de l'emploi à moyen terme ici aux États-Unis?
Je pense que nous sommes en bonne voie. Je pense que pour ceux qui cherchent du travail, c'est de chercher à se former. Et on n'a pas besoin de prendre ces dettes colossales pour se former. Il est important de se former. Il est important aussi, j'insistais au départ, sur les subventions. Donc, si on peut donner des subventions aux entreprises pour qu'ils puissent offrir des salaires décents. Donc, je crois que je vois des signes très positifs.
Des signes très positifs. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Malheureusement, l'émission va bientôt s'achever. On va donner la parole à Laurent Boujambi qui va clôturer cette émission. Laurent, on vous écoute rapidement. Une des perspectives pour le marché de l'emploi aux États-Unis.
Je crois que c'est promettant aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, ça a toujours été un pays de l'emploi et tout le monde vient chercher de l'emploi ici. Et personnellement, je suis très positif en ce qui concerne l'avenir de l'emploi aux États-Unis. Mais je crois qu'il y a il y a certaines choses qui doivent être changées. Mais un petit conseil pour les gens qui cherchent de l'emploi, qui veulent maintenir ou bien se lancer dans des carrières, il faut vraiment se former, comme le disait ma collègue. Mais aussi, il faut aussi voir où la technologie va. Il y a avec l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'emplois qui vont être remplacés. Et je crois que les gens qui vont décider comment étudier ou bien comment vont faire leur carrière, ils doivent aussi penser à cela.
Donc
chercher des emplois qui ne seront pas facilement remplaçables.
Merci beaucoup Laurent Boujambi, expert financier entrepreneur. Merci aussi au professeur Jean-François Seznec, économiste et directeur de Lafayette Group. Merci à Hildegarde Yogo, gestionnaire des ressources humaines en service à l'International Rescue Committee. Merci d'avoir écouté cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site web voaafrique.com. Au revoir.